Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril, nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know? For the elite.
Bonsoir et bienvenue à Hors-Champ, un hors-champ consacré aujourd'hui à Guy Debord pour la ressortie de ses films en salle et en DVD. Et autour de la table sont avec moi Marie et Laurence, et Mathieu est à la technique. On va passer une heure en compagnie des films de Guy Debord avec de nombreux extraits et des extraits d'une interview avec Olivia Sayas, qui est un des artisans de cette ressortie, ce retour des films de Guy Debord sur les écrans. Et on va commencer tout de suite par un extrait pour vous mettre dans l'ambiance.
Le film de Guy-Ernest Debord, Hurlement en faveur de Sade.
Hurlement en faveur de Sade est dédié à Gilles J. Volman.
Article 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et que depuis 4 ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance afin que l'absence soit déclarée.
L'amour n'est valable que dans une période pré-révolutionnaire.
Toutes ne t'aiment pas, tu mens. Les arts commencent, s'élargissent et disparaissent parce que des hommes insatisfaits dépassent le monde des expressions officielles et les festivals de sa pauvreté.
Dis, tu as couché avec Françoise?
Quel printemps! Aide-mémoire pour une histoire du cinéma. 1906, voyage dans la lune. 1920, le cabinet du docteur Caligari. 1924, entr'acte. 1926, le cuirassé Potemkin. 1928, un chien andalou. 1931, les lumières de la ville. Naissance de Guy-Ernest Debord. 1951, traité de bave et d'éternité. 1952, l'anticoncept, hurlement en faveur de Sade.
Guy Debord n'est pas mort, il hurle encore. Combien de philosophes ont eu un impact aussi direct sur leur époque et sur celle d'après? Bien que majoritairement méprisé de son vivant, Guy Debord n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Depuis sa marge, son bord, Debord a toujours observé le monde dominant pour mieux le critiquer. Après son suicide en 1994, la France le découvre soudain, en fait un analyste précurseur de la mondialisation actuelle. Et aujourd'hui, pour parachever cette résurrection, ses films interdits de son vivant et devenus introuvables ressortent au cinéma. Debord s'est exprimé à travers bien des formes, littéraires ou cinématographiques, dans autant de gestes qui inscrivaient l'homme dans le monde qui l'entourait. Finalement, rien de moins abstrait que cette pensée qui, dès les années 50 et avec 10 longueurs d'avance sur son temps, prévoyait déjà l'écrasant triomphe du spectacle sur la société en voie de fantomisation, l'horreur urbaniste moderne, et incitait violemment à la révolte. Les situationnistes ne sont plus, mais la révolution réclamée par Debord est aujourd'hui plus que jamais brûlante, radicale, poétique.
Au moment où la projection allait commencer, Guy-Ernest Debord devait monter sur la scène pour prononcer quelques mots d'introduction. Il aurait simplement dit « Il n'y a pas de film, le cinéma est mort, il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. »
Voilà, donc passons, si vous voulez, au débat. C'est une drôle de manière de commencer son premier film, puisque c'est l'extrait du tout début d'Hurlement en faveur de Sade, le premier film de Guy Debord en 1951. Et voilà, le cinéma est mort, passons au débat. Un credo de l'International Lettriste qu'ils avaient commencé à créer à cette époque.
Oui, dès les années 50, un petit groupuscule de penseurs et de jeunes gens énervés se retrouve à Saint-Germain-des-Prés. Tous les jours, tous les soirs, ils passent des heures à boire et à réfléchir, à penser au monde qu'ils veulent changer. Et petit à petit, cette pensée du monde va s'intéresser au cinéma, cet art qui est en train d'évoluer et qu'ils prennent vraiment en considération. Et tout un travail théorique va être mené par ces personnes pour reformater le cinéma, ou plutôt pour le transformer à leur but et pour atteindre une certaine fin, une fin révolutionnaire, bien sûr. Donc, pour commencer, il y a eu le film d'Isidore Isou,
qui est un très beau titre, Traité de bave et d'éternité.
Voilà, qu'il réalise en 51, qui est montré au Festival de Cannes, quand même, en 51, où il se fait incendier copieusement, évidemment. Un film qu'il va théoriser totalement, par exemple, dans Yon, une revue absolument fascinante où tous les lettristes de l'époque vont théoriser chacun une pratique du cinéma. Et donc Isidore Isou parle déjà de son cinéma discrépant où images et sons n'ont plus aucun rapport ensemble, et au contraire le son doit prévaloir et l'image ne doit plus qu'être un outil méprisable.
Enfin, ça s'inscrit surtout dans une théorie de la poésie qui part d'une évolution, donc qui partirait de Baudelaire où c'est la phrase, ensuite on passe au mot avec Rimbaud et Ballarmé, et ça finit sur la syllabe, comme ce qu'on a pu entendre dans l'extrait de tout à l'heure.
Voilà, donc une grosse importance du son, de la voix off, qu'on va retrouver dans tous les films de Debord dont on va parler pendant toute l'heure, puisque ce sont des images, on verra souvent des images détournées, et des textes lus par-dessus à plusieurs voix, comme dans Hurlement en faveur de Sade ici, ou une seule voix dans les derniers films.
Voilà, même si chaque film a vraiment une identité propre, effectivement, c'est cette technique qui va les rassembler. Et peut-être pour décrire ce groupe de jeunes énervés du début des années 50, quelques mots de Poussette, une artiste peintre qui les accompagnait et qui écrivait « Le groupe dit lettriste est un gang, un cénacle fasciste, une entreprise de démolition. Il est le groupe dit lettriste. Il est dans sa particularité la réunion des plus grands ambitieux de tous les siècles, par exemple, la moindre des ambitions pour chacun étant d'être Dieu et beau. » Alors, on voit que déjà, il y a une ambition, effectivement.
Il y a une ambition dont il ne se cachait pas, et dont finalement, ce qu'il voulait faire et ce qu'il déclarait faire, outre la révolution de l'art et la présence de la poésie partout, c'était surtout de ne jamais travailler. Ce sera un de leurs slogans qui sera repris plus ou moins pendant mai 68. Mais ça, c'est ne travailler jamais et vivre, si possible, la nuit, si possible, dans un quartier assez restreint, c'est-à-dire le Saint-Germain-des-Prés du début des années 50, un quartier qui sera plusieurs fois très bien représenté dans les films.
Oui, tout à fait. Et il faut dire vraiment que cette idée de radicalité, tu as parlé de mai 68, mais on revient de plus en plus sur l'apport du lettrisme et du situationnisme sur les événements mai 68, parce que c'est un travail très souterrain, puisqu'à l'époque, ça n'a pas du tout été mis en évidence. Mais c'est ce travail de radicalité qui démarre dans les années 50 sur la poésie, sur le texte, puis après sur des idées beaucoup plus politiques, et qui passera évidemment par le cinéma. Ce travail-là, il va se ressentir, et la radicalité du mouvement lettriste ouvre un sillon pour tous les événements qui vont suivre. Et même si c'est pas la cause de mai 68, il y a quand même un lien qui n'est plus réfutable aujourd'hui au vu des faits. Et quand on parle de radicalité et qu'on revient au cinéma, je voulais aussi citer Isidore Isou, donc le premier maître d'œuvre d'un film dans le mouvement lettriste, et un peu le leader du lettrisme historique. Ce personnage comme ça, assez fascinant, très beau, qu'on voit beaucoup dans son film d'ailleurs, va marquer sa haine du cinéma dès le début, c'est-à-dire qu'il va utiliser le cinéma assez fin, et ce qu'il dira sur le cinéma et sur les ciné-clubs qui vont beaucoup utiliser eux-mêmes, il va dire « Je demande un nouvel effort de création ou de novation dans les discussions du ciné-club. Le cinéma étant mort, on doit faire du débat un chef-d'œuvre. La discussion, appendice du spectacle, doit devenir le vrai drame. On renversera ainsi l'ordre habituel des préséances, mais avant tout, tuer les animateurs crétins des débats du ciné-club contemporain. » Ça, c'est très lettriste dans l'idée,
voilà,
cette phrase.
Voilà, c'est un peu le programme lettriste dont on va avoir un autre exemple dans un extrait de deuxième film de Debord sur le passage de quelques individus à travers une assez courte unité de temps.
encore une fois le matin dans les mêmes rues. Encore une fois la fatigue de tant de nuits pareillement traversées. C'est une marche qui a beaucoup duré.
Vraiment difficile de boire davantage.
Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film. Cependant, même au cas où ce film réussirait à être aussi fondamentalement incohérent et insatisfaisant que la réalité dont il traite, il ne sera jamais qu'une reconstitution, pauvre et fausse comme ce travelling manqué.
Il y a maintenant des gens qui se flattent d'être auteurs de films, comme on l'était de romans. Leur retard sur les romanciers, c'est d'ignorer la décomposition et l'épuisement de l'expression individuelle dans notre temps, la fin des arts de la passivité. On entend louer leur sincérité puisqu'ils mettent en scène, avec plus de profondeur personnelle, les conventions dont ils sont faits. On entend parler de libération du cinéma, mais que nous importe la libération d'un art de plus à travers lequel Pierre, Jacques ou François pourront exprimer joyeusement leur sentiment d'esclave. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Ceci passe par le dépérissement des formes aliénées de la communication. Le cinéma est à détruire aussi.
Alors le cinéma est à détruire et pour cela, utilisons le cinéma, on pourrait peut-être un peu dire ça. Donc il y a eu ce traité de Bave et d'éternité d'Isidore Isou, il y a eu quelques films, Les Tristes, par exemple Anticoncept de Gilles G. Woolman, un film très étonnant, on en reparlera dans une autre émission sans doute. Et en 52, donc un an après le traité de Bave, Guy Debord, qui a alors 20 ans, qui monte de sa province natale juste pour l'occasion, il réalise quand même un film qui a fait date, Hurlement en faveur de Sade, donc son premier film de cinéaste qui s'inscrit dans cette mouvance. Et nous avons demandé à Olivia Sayas, qui connaît très bien le sujet, en quoi ces films, donc très inscrits dans une époque et dans un certain contexte intellectuel, sont toujours des films qui nous touchent.
Oh ben non, disons que c'est daté dans le sens où que ce soit des gestes artistiques qui appartiennent à une époque de façon, oui. De façon immédiate. C'est-à-dire que un film comme Hurlement en faveur de Sade, qui est une sorte de manifeste, c'est-à-dire c'est un film qui est entièrement constitué d'écrans blancs et d'écrans noirs, avec quelques fragments de texte, comme Sade découpé, comme des. C'est un collage, et par des bribes comme ça de voix qui disent des textes qui sont des collages, voilà. Donc c'est un acte très violent au fond dans le cinéma de son époque, y compris dans le cadre du cinéma expérimental. C'est quelque chose qui appartient à une époque très spécifique, qui est le début des années 50, et le cinéma lettriste. Et le cinéma lettriste, admettons que le lettrisme a été une sorte de résurgence, enfin du dadaïsme. Du mouvement Dada, après, dans l'après-guerre, où il y avait la même volonté de s'en prendre aux formes officielles de l'art. Et là où il n'y avait jamais eu, au fond, d'agression artistique contre le cinéma, Debord, enfin Isou dans un premier temps, et Debord de façon plus radicale encore et plus absolue, commet l'acte d'agression contre le cinéma en tant qu'art. Constitué et au fond appartenant à l'attirail des arts bourgeois. Et ce que le cinéma ne le voit pas, ne le comprend pas, parce qu'il n'est pas du tout dans cette problématique-là, mais Debord a une vision historique du cinéma, et de ce point de vue-là, disons qu'il appuie exactement à l'endroit le plus sensible. Pour après, chacun peut voir les choses à sa manière, mais c'est vrai que moi je considère le Hurlement en faveur de Sade comme une sorte d'acte inaugural du cinéma moderne, c'est-à-dire c'est une sorte de page, pour moi c'est une sorte de page blanche qui dit on recommence à zéro, et c'est la page blanche sur laquelle s'écrit le cinéma moderne. Je pense que beaucoup de cinéastes modernes ne le diraient pas comme ça, d'abord parce qu'ils n'ont pas vu ce film-là et ils ne se sont pas intéressés à cette question-là, disons dans cette perspective-là et de ce point de vue-là, mais disons que c'est pour moi c'est le film qui anéantit le cinéma classique, disons, voilà, mais qui dit, voilà, il faut tout, on peut faire autre chose avec le cinéma, en essayant de nouvelles choses, quoi, avec de nouveaux thèmes, de nouvelles personnes, de nouvelles manières de regarder le monde. De ce point de vue-là, je pense que le cinéma moderne, qui est apparu progressivement à la fin des années 50 et au début des années 60, et appartient à ce mouvement-là. Et admettons que vous me demandiez si moi, c'est des choses qui représentaient quelque chose pour moi ou qui comptaient pour moi dans ma pratique, je dirais que moi, ce qui compte pour moi, c'est juste que j'ai le sentiment d'appartenir un courant qui est celui du cinéma moderne, et que de ce point de vue-là, je me reconnais tout à fait dans la rupture avec le cinéma classique qui s'opère à ce moment-là. Et la bonne question, c'est pas de dire qu'est-ce que ça vous fait de voir Hurlement en faveur de Sade en 2005. La bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous fait de voir Hurlement en faveur de Sade en 1952. Ça n'a pas de sens en dehors de ça.
L'art est dans la rue, un morceau de Diabologum qui nous a semblé illustrer assez bien cette première étape du programme lettriste de Debord, c'est-à-dire de libéraliser l'art, de le sortir d'un certain sanctuaire artistique et de le mettre à la portée de tout le monde, à travers dans la rue, à travers une certaine poésie finalement. Et c'est ce dont va nous parler Olivier Assayas tout de suite dans une question. On lui a demandé en fait comment Guy Debord avait résolu la contradiction apparente d'être contre le cinéma, de vouloir détruire le cinéma, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et de finalement faire quand même des films.
C'est une question qui est à la fois très juste et qui, à laquelle il est difficile de répondre autrement qu'en reprenant la totalité au fond du parcours de Debord dans le cinéma. Donc c'est un peu difficile à faire, mais je vais essayer de le dire en deux mots. C'est que dans la première période de l'international situationniste, il y a l'idée de créer un mouvement qui remettrait en cause le rapport entre l'art et la politique et qui serait déterminé par, une critique extrêmement provocatrice, mais qui dépasserait évidemment le champ de l'art, mais qui partirait certainement du champ, mais qui partait du champ de l'art. Donc où pouvaient se mêler des artistes comme Jorn, comme Pinot Galizio, Zimmer, les Allemands, enfin il y en a une série constante qui au fond pratique chacun une critique de l'art au sein de l'art. Et Debord le fait à sa façon, à travers des œuvres. Il y a de cette période-là spécifiquement des œuvres de Debord. On peut les énumérer. Il y a le recueil de poèmes qui est Mémoire. Il y a sa collaboration à Fin de Copenhague de Jorn. Il y a un peu plus tard les directives qui sont des manifestes d'affirmations philosophiques qui sont peintes sur toile. Et deux films sur le passage, Critique de la séparation. Et ces œuvres, cette pratique, elle est concomitante avec l'évolution. D'abord, le travail de réflexion et d'action au sein de l'IS, les textes polémiques et stratégiques de cette époque-là. Et puis, il y a un moment donné, il y a une rupture. Et dans le sens où il y a une rupture à partir de laquelle il n'y a plus d'œuvres. Et admettons qu'un film comme Critique de la séparation est exactement cette charnière-là. Il est fait en 61, et au sein de l'IS, la charnière, elle est exactement à cette époque-là. C'est l'époque où, progressivement, les artistes, ou ceux qui continuaient à pratiquer de façon, au fond, classique à leur façon, un art, ont progressivement quitté l'IS, s'en sont retirés, y compris Asger Jorn, qui est demeuré le financier de l'IS, un ami de Debord, qui est amitié jamais renié ni par l'un ni par l'autre, mais enfin néanmoins, il s'est retiré sur la pointe des pieds, et il y avait cette idée qu'à partir de 62, du congrès de Göteborg, l'IS est un groupuscule de théoriciens dont le but est de faire la révolution, enfin disons dont l'objet est d'appliquer dans le monde une pensée issue de la remise en question radicale de l'art. Et donc à partir de là, il n'y a plus d'œuvres. Et il n'y a plus de films de Debord. Et les œuvres antérieures sont effacées. Elles disparaissent. Lui-même ne veut plus en entendre parler. Et rien de tout ça ne sera réédité avant des décennies. Et puis, en 72, il y a la dissolution de l'IS. Debord a le sentiment que le projet politique est arrivé à son terme. Parce qu'au fond, mai 68 a eu lieu. Et au-delà de mai 68, il a le sentiment que les gens qu'il avait autour de lui se dispersait, n'arrivait plus à trouver au fond le chemin d'un renouvellement de leur pensée qui serait en prise avec ce qui se passait, disons, le mouvement révolutionnaire international. Lui-même avait le sentiment d'avoir porté tout ça à bout de bras et au fond d'avoir fait son travail. Dissolution de l'IS, il se pose la question de comment il va transposer la société du spectacle au cinéma. Et il se remet à faire des films. Et les films, d'abord un film de combat théorique, qui est la société du spectacle, un autre film de combat qui est Réfutation de tous les jugements, qui prend en compte la révolution des œillets au Portugal, qui est absolument immergé, enfin qui est un film complètement dans la radicalité de l'époque et qui admettons étant pendant avec des choses qui se publiaient à cette époque-là chez Champ Libre, où au fond dans son activité d'éditeur là-bas, Debord réunit un nouveau groupe autour de lui et publie ponctuellement des textes, pamphlets qui sont des textes d'intervention sur le nucléaire, l'amiante, l'Algérie, etc. Et puis je crois qu'à un moment donné il y a le sentiment qu'il y a un reflux du mouvement révolutionnaire, et là il a le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de s'étioler. Il a de plus en plus le sentiment que lui a joué son rôle et qu'il ne peut plus être que dans quelque chose de rétrospectif, de regard sur son œuvre. Et à partir de ce moment-là, il revient à l'art. Il revient à l'art à travers, en particulier, Ingelung Humus, Noctet, Kotsumimu, Rigny, qui est littéralement la charnière de ça. Et c'est une charnière passionnante, parce qu'on voit très bien dans ce film-là qu'il est plié en deux. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est une description très dure, très brutale, très cruelle du monde contemporain, donc avec sa valeur d'affirmation provocatrice. Et puis il y a le lyrisme du « je » qui à un moment donné revient. Si on passe du « nous », admettons du gauchisme, enfin encore que De Gaulle aurait haï d'être considéré comme un gauchiste, mais enfin disons en tout cas du mouvement révolutionnaire, si vous voulez, et on passe au « je » de l'autobiographie. Et là, c'est tout d'un coup la veine poétique qui avait été refoulée pendant toutes ces années, qui était celle des premières œuvres d'art, bah, tout d'un coup elle revient, elle s'épanouit, dans un mouvement, ben voilà, qui va donner naissance à tout ce qui va suivre ensuite dans son œuvre.
Nous voilà donc dans les années 60. Alors le lettrisme, c'est fini pour Debord. Il a laissé ça derrière lui. Pour l'instant, c'est le situationnisme. En 67, il écrit sa grande œuvre, La Société du spectacle, un livre qui va faire beaucoup de bruit et qui en fait beaucoup plus aujourd'hui encore. Et en 73, donc longtemps après ses précédents films, il reprend la caméra, ou plutôt il redirige un film, puisqu'il n'a pas vraiment de caméra, et il tourne La Société du spectacle, un film pamphlet, où le texte qu'il a écrit plutôt s'exprime sur des images volées à droite à gauche, dans un esprit forcément situationniste, un film très important dans sa carrière, où donc ses idées s'exposent sur la société, sur l'individu, comme nous allons entendre quelques extraits pour illustrer ces deux exemples.
Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits, et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités, de progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leur maladie toujours renouvelée, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leur maître. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale.
Oui, donc c'est un petit peu dur de parler après ces textes de Debord qui sont tirés, le premier de La Société du spectacle, le deuxième d'Injirum, Imus Nocte et Nkosumimu Igni, son dernier film, mais qu'on a placé là parce qu'effectivement on ressent bien cette espèce de, j'allais dire presque de mépris qu'il a pour la société moderne qu'il commande de façon très acerbe et très très violente. Et donc son idée générale, c'est que je peux le paraphraser, j'espère qu'il m'en voudra pas trop, c'est de dire qu'en fait on vit plus dans le monde, on vit dans une représentation du monde qui nous est assénée du matin au soir par les médias et par les images qu'on voit autour. Et donc ce que du coup là, c'est son travail de film va se nourrir de cette critique de la société, puisqu'il va utiliser des images déjà utilisées par d'autres à d'autres fins, des fins en général commerciales, publicitaires ou propagandistes ou n'importe quoi, et lui va appliquer sa théorie et ses démonstrations sur ces images. C'est ça qui est souvent très fort, notamment dans la société du spectacle, qui est le summum de cet art du détournement.
Oui, et je trouve qu'à
Laurence.
Oui, Grégoire, je trouve qu'à la neutralité du ton s'oppose la grandeur de l'abîme qu'il soulève, en fait, ou l'abîme qu'il révèle au spectateur. C'est quand même d'une dureté incomparable ce qu'il nous dit là en face. Il nous met face à une réalité qu'on ne peut pas nier. Enfin, quand on entend ces textes, ils ont l'air d'être complètement actuels. Enfin, je veux dire, il parle quand même de choses qu'on a vécues très récemment, qu'on vit tous les jours, et d'où aussi ce côté visionnaire, parce qu'aujourd'hui, en 2005, ça n'a pas pris une ride, alors que ça date d'il y a quand même plus de 30 ans. Donc c'est quand même une façon d'imposer une idée aussi. Et puis par le cinéma, ça ouvre aussi tout son discours, qui était peut-être réservé à l'époque, en tout cas, à un petit public, hein, il faut le dire. C'était pas beaucoup lu non plus, de bord. Et par le cinéma, il ouvrait sans doute pas non plus un immense public, mais quand même, c'est un média de masse. Donc quand même, c'est confronter ces idées-là à leur propre support de réflexion, en quelque sorte.
Oui, ce que je trouve très marquant en particulier, moi, c'est la langue de Debord, qui a toujours été citée comme un modèle de classicisme. Et on le voit dans ses extraits dénoncer l'alphabétisme actuel, et souvent la manière dont le langage est perverti justement par le pouvoir et par les masses médias pour conditionner les gens. Et Debord emploie un langage qui est toujours celui d'un langage en fait de guerre, très très clair, très précis, qui va à l'essentiel. Et on peut se souvenir que ces modèles ont toujours été soit des stratèges comme Clausewitz ou alors le cardinal de Retz, qui connaissait quasiment par cœur. Et donc je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de ces films, c'est ce texte.
Sa force d'impact.
Voilà.
Hein. Voilà. Et comme justement on parle plus de films que de philosophie ou de théorie, on va revenir au film en écoutant un extrait donc, de la Société du spectacle où il parle du détournement qui est la base de ces films.
Le détournement est le langage fluide de l'anti-idéologie. Il apparaît dans la communication qui sait qu'elle ne peut prétendre détenir aucune garantie en elle-même et définitivement. Il est, au point le plus haut, le langage qu'aucune référence ancienne et supracritique ne peut confirmer. C'est au contraire sa propre cohérence, en lui-même et avec les faits praticables, qui peut confirmer l'ancien noyau de vérité qu'il ramène. Le détournement n'a fondé sa cause sur rien d'extérieur à sa propre vérité comme critique présente.
Voilà, donc le détournement, c'est la grande forme de la société du spectacle, c'est-à-dire donc un film qui est composé d'images la plupart fixes, puisque c'est en fait il prend des photos ou il les filme au bantitre, c'est-à-dire qu'il filme une caméra qui se déplace sur les images, ou alors il utilise des films publicitaires ou des choses comme ça. Et je sais pas, Laurence, qu'est-ce que tu penses de cet usage de...
Ça lui donne une certaine intemporalité, et évidemment, c'est une forme complètement originale. Alors le détournement, ça amène aussi sur un aspect, bon, on va pas dire ludique, parce que sur les films de Debord, en tout cas, ce n'est pas le cas, mais ça va déboucher sur d'autres formes beaucoup plus ludiques. Et c'est vrai qu'ils vont beaucoup utiliser la BD, par exemple, dans ces films, ils filment des petites bulles de BD, et c'est vrai que ça amène quelque chose de complètement étonnant par rapport à son discours, et une espèce de... un contre-champ, mais léger, en fait. Juste pour dire que toujours il s'intéresse à la société, et dans tout ce qu'il a construit, et donc culture populaire égale BD, photos de femmes toutes nues, enfin je veux dire, dans la société du spectacle, le film, les trois quarts des images, c'est des filles en bikini ou toutes nues, des striptease, des choses comme ça. Donc il se fait quelque part plaisir dans les images qu'il utilise. Il utilise aussi beaucoup d'extraits de films, pas des moindres. Je trouve qu'il montre aussi là une certaine forme de cinéphilie, parce qu'il montre des films comme Shanghai Gesture, Rio Bravo, pas mal de grands films du cinéma. Donc c'est pas non plus, il dit qu'il utilise des extraits récupérés dans les poubelles des labos. Mais quand même, enfin, je veux dire, il a plutôt bien trié.
Oui, on a l'impression qu'il a quand même choisi ses extraits quand il passe plusieurs fois Johnny Guitar, par exemple. On se doute que voilà, il l'a cherché, il l'a pas juste pris parce que c'était un film et que même si effectivement il méprise un petit peu le cinéma comme art commercial, il n'hésite pas à l'utiliser, à utiliser de l'émotion qui peut venir de scènes, de films à scénario classique dans ses films. Et justement, par rapport au... C'est peut-être un petit peu en contrepoint par rapport au détournement, c'est-à-dire que les autres images, donc les BD, les publicités, servent de détournement, c'est-à-dire qu'elles sont la base visuelle de son discours, mais quand il utilise en général des extraits de films, à part des extraits de films de cinéastes soviétiques, il n'hésite pas à mettre son discours dessus, mais quand il utilise des extraits de films américains, il coupe son discours, et on a l'extrait tel quel.
Et ça s'inclut en général dans son discours aussi, ça, c'est très lié à ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, comme son utilisation aussi très fréquente d'images de guerre, puisque comme tu le disais Marie, son discours est un discours de guerre quasiment, et il utilise comme ça beaucoup d'images, soit des images d'actualité, soit des images de films, qui montrent ça, la bataille, la guerre, les duels, ça revient beaucoup dans tous ses films à partir de la société du spectacle.
D'ailleurs, cet usage du détournement qui est associé à un usage constant de la citation, notamment dans son discours, et qui est plus particulièrement marqué dans son dernier film, In Jerome, où il cite de façon directe que ce soit Héraclite, Bossuet, Dante, sans les introduire. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'édition livre, il met des citations parce qu'il dit les gens sont tellement plus cultivés qu'ils n'ont rien compris, à mes citations, donc je suis obligée de les montrer du doigt. Mais pour lui, c'est comme quand il a inclus un extrait de Johnny Guitar, ça s'inclut naturellement dans le discours.
Oui, on peut peut-être juste dire deux mots justement sur le. Tu as parlé de l'édition livre, les films de Debord sont parus. Alors les premiers films, ces premiers courts-métrages de la période plutôt, Les Tristes, sont parus dans un recueil qui était assez ironiquement titré Contre le cinéma. Et ensuite, les suivants sont parus depuis, pas forcément à l'époque, mais existent depuis en édition Gallimard.
Oui, il y a ce jeu entre j'adapte mon livre dans mon film ou je remets le film sur la table par écrit pour que... On ne perd de rien de tout ce texte.
Voilà. Et ce qui est assez fort, c'est que par exemple dans certains scénarios de films, un scénario entre guillemets, c'est que donc il est écrit, il y a d'un côté on décrit les images, on décrit ce que dit la voix off, et parfois on décrit des sous-titres qu'on va rajouter en plus en faisant un troisième niveau de lecture, tout ça pour vous vraiment que le film vous rentre dedans et vous convainque ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez violent de voir un film comme ça de Debord où il y a trois niveaux de lecture qui en même temps. On n'a pas voilà, parfois le spectateur est obligé de choisir, de dire bah je vais me concentrer sur la voix ou sur les images parce qu'il peut pas tout voir.
Oui, Grégoire, et moi je noterais même, pas au niveau du discours, mais une petite pointe ironique dans l'utilisation de ces images publicitaires. Dans la société du spectacle, on voit des images d'Anna Karina dans ses toutes premières publicités, avant même qu'elle fasse du cinéma. C'est comme ça que Godard l'a repérée, il faut dire. Et Debord, je pense, comme il ne devait pas très bien s'entendre avec Godard, lui fait ce sale coup de récupérer ces images que personne ne connaissait ou qui avaient dû être oubliées dans des poubelles. Il y a belle lurette, il récupère ces images d'Anna Karina dans un bain en train de vanter mon savon. Et il monte ça dans son film en toute ironie. Et voilà, il y a toute cette utilisation-là qui donne encore un sens ou une volonté qui se rajoute aussi aux différents niveaux de lecture.
Voilà, on pourrait illustrer cette partie sur la révolution et le rentre-dedans des films. On a choisi un morceau de programme, le groupe suivant de Arnaud Michniak de Diabologum.
a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. Ça c'est la société, ça c'est les gens qui vivent dedans. Ça c'est les nantis et ça les défavorisés. Et ça c'est un vieillard qui a encore peur de son grand frère. Et ça c'est une clocharde, peut-être qu'on l'a écartée parce qu'elle buvait trop, qu'elle s'est mise à boire après. Peut-être que c'est elle qui a été mauvaise pour se venger après avoir appris tout ce qu'elle disait sur sa mère. Ça, c'est des étudiants qui veulent plus de moyens. Personne n'a vraiment été mauvais. Ça s'est joué sur un détail, un jour, une parole mal interprétée. Mais alors, c'est que de toute façon, il y avait eu d'autres trucs avant. Mais surtout, plus personne ne voulait en entendre parler. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les autres. Et ça, c'est des types que s'ils en croisent un autre seul dans une rue, ils le tuent. Et ça c'est quelqu'un qui voit un cercueil descendre dans un trou et qui se demande pourquoi cette image marque son histoire plus que tous les autres cercueils qu'il a vu descendre dans tous les autres trous. Ce qui se passe ici de décisif pour lui. Qu'elle s'ouvre, qu'elle se ferme, la porte fait un sacré boucan.
Alors en 1978, Debord réalise Injiru Mimus Noctet et Consumemur Igni. C'est un palindrome même. Et oui, un film magnifique. Enfin, moi, je pense qu'autour de cette table, on est d'accord pour dire que c'est son plus beau long métrage,
qui prend
une dimension absolument autre et nouvelle, une vraie dimension cinématographique. Après, on pourra s'entendre sur les termes, mais donc un très très beau film lyrique et poétique. Et donc, on a demandé à Olivier Assayas si pour lui, Debord était vraiment un cinéaste.
Ah bah, disons que Debord est un cinéaste, je dirais, en ce sens qu'il a fait des films. Après, on pense qu'on veut des films, mais disons que, admettons qu'il est cinéaste. Après, on jugera comme on veut cinéaste. Moi, je le mettrai haut parce que je pense que c'est un des très grands inventeurs de forme dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il a utilisé le cinéma d'une manière complètement unique, complètement personnelle, à l'écart des courants historique du cinéma, et donc il y a une œuvre poétique qui est météorique, qui est très rare, et au fond qui est chargée de la même intensité que quoi que ce soit qu'il ait créé. Et donc évidemment, et puis en plus c'est un cinéma dans lequel sans arrêt, constamment, pèse la totalité d'une œuvre qui dépasse largement le cinéma. Qui est celle, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le film, la société du spectacle, n'est pas une pâle déclinaison du livre. C'en est le noyau même, incandescent, enfin, porté par son auteur lui-même à l'écran. C'est quelque chose de complètement unique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un ouvrage de théorie aussi important qui a été transposé en image par son auteur. Et de la même manière, je veux dire, la puissance d'un film comme Injiru Mimus Noctet, elle tient au fait que c'est de la vie et de l'expérience de son auteur qui est lui-même au fond un personnage historique. Debord, il est un poète, il est un cinéaste, il est un théoricien et il est un personnage historique. C'est quelqu'un qui a vécu l'histoire et qui l'a en partie faite. Donc des films qui sont chargés de ça, c'est des objets, c'est certainement des objets cinématographiques importants à tout point de vue.
J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe, et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Ici fut la demeure antique du roi de Hou. L'herbe fleurit en paix sur ses ruines. Là, ce profond palais des Tsin, somptueux jadis et redouté. Tout cela est à jamais fini. Tout s'écoule à la fois, les événements et les hommes, comme ces flots incessants du Yangtze-Kiang qui vont se perdre dans la mer.
Là, c'était un extrait de ce film « Injirum imus nocte en consumimur igni » qui laisse justement avoir ce changement de ton assez radical, puisque aussi il était dans la radicalité au début, et là il est dans un lyrisme avec un texte très très beau. Il nous cite un extrait d'un poème sans doute chinois, et on part sur cette musique de Rameau, je crois, de Couperin. Merci Marie. Et voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ce changement de statut des films, Marie ?
En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de changement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce film est son dernier, il est beaucoup plus élégiaque que les autres, beaucoup plus personnel. Mais je trouve qu'il y a... Tous ces films racontent un peu une histoire de deuil, et notamment l'histoire de la perte de ces années magiques 51-53 que Laurence évoquait au début, et que ce soit critique de la séparation ou sur le passage de quelques personnes... Un peu moins la société du spectacle, mais effectivement, d'ailleurs, Injirum cite, il y a des citations explicites de ses films, revient sur ces années, sur ce Paris qui n'est plus, mais d'une manière qui est effectivement totalement déchirante, dans la mesure où là, ce Paris n'existe plus. Et si en 59, quand il réalise Critique de la séparation, il avait 27 ans, il pouvait encore parler de ses années avec mélancolie, mais c'était pas si loin, Paris existait encore. Là, la ville qu'il connaît n'est plus. D'ailleurs, on peut noter qu'il n'y a plus de plan particulier sur Paris, il n'y a que des vues aériennes et des vues de cartes. Les seuls plans qui existent sont sur Venise et sur l'eau, qui sont à mon avis les plus beaux du film. Je sais pas ce que t'en penses, Laurence.
Moi, je trouve que c'est justement ces vues aériennes de Paris sont assez magnifiques, parce qu'on s'y projette totalement, enfin, pour peu qu'on connaisse un petit peu Paris, mais on y retrouve des lieux qu'on connaît, et en même temps il y a cette distance du côté aérien qui fait que c'est quelque chose d'effectivement très lointain. On est sur une autre planète et on regarde Paris comme si c'était très très loin, c'est en noir et blanc, et évidemment ça va dans le sens de ses regrets, de cette nostalgie. Mais il utilisait déjà, je crois, des vues aériennes de Paris dans d'autres films, c'est quelque chose qu'il utilise pas mal, ça donne toujours une distance, et le propos devient aérien quasiment, ce côté élégiaque, c'est ça aussi, c'est parler sur des images qui sont si lointaines, si, des choses tellement minuscules en fait dans les plans, chaque mot devient quelque chose de beaucoup plus ample et ça va dans le sens de cette poésie, de ce lyrisme en fait du film qui est assez bouleversant. Donc il y a Saint-Germain-des-Prés qui va regretter, il y a toute une période de la Révolution qui n'a pas marché, qui n'a pas eu lieu comme il voulait, tous ces regrets-là qui sont assez déchirants. Grégoire.
Oui, et donc en fait il laisse libre cours à cette envie de poésie qu'il avait en fait déjà depuis le début, même dans ses films un peu tract du départ, puisque c'est dans Critique de la séparation où il filme cette jeune fille qui revient au début et qui revient dans le film et qu'on revoit à la fin, et il la filme un petit peu vraiment dans des scènes, dans des cafés qu'on imagine mises en scène. Il la filme aussi beaucoup, il filme des photos d'elle, et c'est déjà là il y a déjà une poésie qui sortait de ces images pourtant toutes simples. C'est un plan, une photo presque une photo d'identité, et la façon dont il le filmait, c'était superbe. Et donc là, dans ce dernier film justement, où il revient à un retour rétrospectif sur sa vie, sur le fait que il ouvre le film aussi sur le jeu. Le premier mot du film, c'est un jeu, alors que tous ces films avant quasiment parlaient de nous, enfin du groupe, de l'international situationniste, de ce groupe qu'ils ne nomment pas toujours, mais dont on sait qui ils sont. Tout ça participe à faire un film effectivement très très lyrique et qui vous prend au trip, qui est superbe.
Oui, et c'est là je trouve qu'on comprend le mieux peut-être son vrai talent de cinéaste, hein, qui se révèle vraiment clairement, puisque dans l'utilisation donc de ces plans très très éloignés, donc plans aériens, des gros plans, enfin je veux dire, la façon dont il agence tout simplement, donc c'est un pur travail de mise en scène, de montage, la façon dont il agence gros plans, plans larges, plans très très larges, plans aériens, et dont il pose la musique et la voix sur ces images, c'est purement magnifique. Donc là on a entendu un extrait où il y avait de la musique qui clôturait le propos et où justement le silence laissait la place à cette musique de nous emmener après juste ce qu'il venait de dire, qui était très beau. Donc là il y a vraiment un souffle qui est laissé par la mise en scène, et c'est ça qui est très beau dans ce film, c'est sa grandeur aussi, c'est d'avoir su trouver les images et les paroles par-dessus tout fusionne à la perfection, je dirais, par rapport aussi à son message. Ça va dans le sens aussi de son discours militant quelque part, mais il a su trouver la grande forme peut-être de son style, même si plus jeune c'était aussi une autre fonction. Marie.
D'ailleurs, pour Debord, il n'y a pas vraiment de scission entre le discours militant et l'autobiographie, puisqu'on peut remarquer qu'il se met en scène dans presque tous ses films, il y a au moins une photo de lui qui apparaît, même dans la société du spectacle. Et donc In the Room est un film qui lit complètement les deux aspects, puisque le film s'ouvre tout de même sur 20 minutes, une description assez terrible de la société de l'époque, mais qu'on peut encore écouter aujourd'hui presque avec effroi, et passe effectivement au jeu et à l'échec des révolutions. Mais pour Debord, il n'y a pas la théorie et la vie, c'est la théorie et la vie. D'ailleurs, il y a quelques phrases sur la critique justement des théoriciens qui manipulent leurs théories comme des pions sur un échiquier, alors que c'est pas... Ça doit être quelque chose de tous les instants. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être voir la dernière phrase du film à reprendre depuis le début comme une incitation à continuer justement le combat, quoi.
Justement, continuer le combat, c'est un peu ce qu'on fait maintenant, ce que font les distributeurs du film, et, enfin des films qui ressortent. On peut peut-être un peu rapidement passer sur l'historique de ce retour, puisque donc on l'a pas beaucoup dit, mais en 1984. Gérard Lebovici, un ami de Guy Debord, son éditeur à Champ Libre et aussi producteur des derniers films, a été assassiné, et la réaction de la presse qui a lié un peu Debord au milieu du terrorisme gauchiste a fait qu'il a décidé tout net d'interdire la diffusion de ses films. Et donc ça fait effectivement plus de 20 ans que ces films n'ont pas été visibles en France. Et donc la renaissance est revenue par le Festival de Venise en 2001, qui a fait un hommage au film de Debord. Donc il y a eu un début de restauration qui n'était pas tout à fait satisfaisant, d'après ce que nous a dit Olivier Assayas cette semaine. Et donc là, le travail était encore une fois de peaufiner cette restauration, de retrouver des copies, de refaire les sous-titres, puisque à un moment, donc, les sous-titres qui apparaissent en plus de l'image et du son n'était pas dans cette première restauration en 2001, ce qui fait que voilà, maintenant on arrive à avoir des films à peu près tels qu'ils étaient au départ en salle, et aussi en DVD avec une volonté, je crois, de la part donc d'Olivia Sayas, qui a travaillé avec Alice Debord, la veuve de Guy Debord, d'accompagner le coffret DVD uniquement. Donc il y a un gros livret de plus de 100 pages, mais qui est uniquement composé de textes d'époque, c'est-à-dire de textes de Debord à la sortie, de facsimilés du dossier de presse de la Société du Spectacle, du dossier de presse d'Ingy Room, d'extraits de Contre le Cinéma, donc le recueil qui prenait ses premiers films et qui les présentait. Donc voilà, c'était une grosse volonté de faire une ressortie un peu, voilà, en gardant l'esprit de ce que faisait Guy Debord dans ses films.
Oui, donc voilà, c'est un véritable événement, donc, de par ce côté pépite récupérée telle quelle de son époque, et qui nous arrive, donc, comme tu disais, en DVD, dans un magnifique coffret édité par
Gaumont Vidéo.
Alors que les films ressortent en salle, et que pour Ingy Room, en tout cas...
Ça ressort au NKD Hautefeuille à Paris.
Il est vraiment vivement conseillé de le voir sur grand écran, parce que c'est comme on le disait plus tôt, c'est un très très beau film de cinéma. Et donc les films ressortent en salle grâce à Carlotta. Donc un beau travail double, à domicile et sur le grand écran.
Voilà, et puis il y a aussi, on peut dire, rappeler qu'il n'y a pas que les films, il y a aussi les livres. Peut-être Marie, qu'est-ce que tu...
Donc pour ceux que cette émission a intéressé et qui voudraient se plonger dans l'œuvre de Guy Debord, je recommande pour aborder son œuvre ce texte magnifique qui est Panégyrique tome 1, qui est un peu le pendant écrit de Ingy Room, puisqu'il fait à peu près le même retour sur sa vie, sur ses années de jeunesse et ses combats, donc dans une langue sublime, on peut le dire. Ensuite, pour ceux qui voudraient aborder ces textes théoriques, il y a les commentaires sur la Société de Spectacle qui ont été publiés en 1988, qui sont très très d'actualité encore aujourd'hui, beaucoup plus abordables que la Société de Spectacle, qui est un livre un peu difficile parfois. Et ensuite, on peut trouver tous les scénarios, comme le disait Grégoire tout à l'heure, de ces films édités chez Gallimard, donc Ingy Room et Mousse Noctée, ou bien ses œuvres cinématographiques complètes, qui sont de très bonnes éditions.
Je conseille aussi la réédition de Yon, la première revue qui regroupe tous ces textes sur le cinéma par les lettristes, dont je vous ai cité plusieurs passages par Poussette et par Isidore Isou. Donc Yon, ça a été réédité assez récemment, donc je vous le conseille vivement.
Voilà. Bon, il va bientôt être l'heure de conclure cette émission hors champ consacrée à Guy Debord. Je crois que Laurence, tu voulais un peu conclure sur finalement le personnage et cet aspect du personnage de Guy Debord, avec ses plusieurs facettes.
Oui, ses plusieurs facettes. Je ne pourrais pas toutes les cerner à moi toute seule, mais au moins il y en a une qui, à mon avis, qu'il assumait assez facilement et qu'il a un peu mise en avant dans Ingy Room, puisqu'il passe un extrait des Enfants du Paradis avec le personnage de Lassner qui est présent dans le film comme ça. Il arrive de temps en temps et dans une très belle scène, Lassner dévoile son programme de vie, en fait. Je suis contre la société, et ça peut passer par le meurtre, mais c'était pas le cas pour Debord, mais ce genre de personnalité comme ça, très, très affirmée et puis révolutionnaire, ça ne pouvait pas le laisser indifférent, donc on pourrait peut-être y lire un petit portrait quelque part.
On attend l'extrait qui va arriver. En attendant, on va remercier...
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François?
Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garand, je prépare quelque chose d'extraordinaire.
Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils nous l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment.
Mais quelle prodigieuse destinée.
Je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haute. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud.
Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents.
Oui, voilà, faut toujours écouter ses parents. Je remercie Marie et Laurence qui m'ont accompagné tout au long de cette heure autour de la table. Je remercie Mathieu qui a fait la réalisation et nous remercions aussi énormément.